Je te présente et puis tu précises si j'oublie des choses. Donc toi, tu es formée à l'Institut Rhapsody de Bruxelles en art-thérapie, spécialité art plastique. Et avant, tu étais professeure d'art. Là, tu exerces depuis 2018 en libéral à Perpignan, notamment sur de l'accompagnement de personnes adultes. Et tu es aussi employée depuis 2021 dans une équipe pluridisciplinaire d'accueil de jour. Et il me semble que c'est là où tu es aujourd'hui, car tu nous proposes une immersion dans ton atelier. Voilà, je te laisse la parole.
Donc oui, la présentation est correcte. Donc je suis art-thérapeute aujourd'hui en clinique psychiatrique. C'est le lieu dans lequel je vous accueille. C'est mon atelier. J'espère que vous le verrez par la caméra. Donc moi, je suis issue de l'univers des beaux-arts en études supérieures et de l'université d'arts plastiques. Donc j'ai enseigné en tant que prof sur l'Académie de Lille, là où j'ai étudié Lille-Tourcoing, et j'ai enseigné les arts plastiques et les arts appliqués pendant un certain nombre d'années, petite dizaine d'années. C'était pas la posture idéale pour moi. Je me sentais pas bien dans ce rôle de professeur. Écoutez-moi, je parle, taisez-vous. J'ai finalement découvert l'art-thérapie lors d'une mission spéciale pour l'éducation nationale qui visait à encadrer des jeunes en décrochage scolaire. Donc là, ma posture a complètement changé et je me suis retrouvée accompagnante de personnes remotivées par le biais de différentes disciplines, les maths, et donc moi, la création, la créativité. Et c'est là que je me suis vraiment épanouie et j'ai découvert que non, ma posture, elle est dans l'accompagnement, dans le thérapeutique et pas dans le professorat. Je me suis formée en Belgique à Rhapsody parce que c'est la formation que j'ai trouvée la plus complète et qui était expérientielle. Et voilà, donc je suis aujourd'hui art-thérapeute, donc depuis sur Perpignan depuis 2018, depuis 2019, vraiment dans la clinique où je suis. Et c'est ce que je souhaite vous présenter aujourd'hui à travers différentes créations des patients. Mes phrases vont commencer par je, parce que je vais vous témoigner les expériences diverses qu'on côtoie à travers le faire et l'être en art-thérapie et dans la relation thérapeutique. Je me suis questionnée, mais comment je vais aborder ce sujet? J'avais vraiment envie de proposer quelque chose au SFAD pour ce colloque. Et je me suis questionnée, mais comment ce que je fais va servir la thérapie et comment ce que je suis va influencer ce que je fais. Enfin, voilà. Oh, ça partait waouh c'est un sujet colossal. Et finalement, ce que je fais reflète ce que je suis en tant que thérapeute et ce que je suis va beaucoup influencer ce que je fais. Bon. Et il s'avère que finalement, depuis plusieurs années maintenant que je pratique ici à temps quasi complet, j'accompagne environ entre 80 et 100 patients par semaine dans cet atelier et je fais avec eux, je crée avec eux, j'ai plaisir à créer avec eux. Je me suis demandé, mais est-ce que ça va vraiment donner des bénéfices à leur thérapie, à leur évolution? Ben, je constate que oui. Donc, j'avais vraiment envie de vous parler de ça. Alors, le contexte, brièvement. Donc, cette clinique psychiatrique a un accueil de jour, là où je suis, tous les jours. Je mène des ateliers d'art-thérapie le matin et l'après-midi. Je reçois en groupe uniquement environ 10 personnes. Je mets un quota maximum de 10 personnes. Je tiens à ne pas en recevoir plus parce que c'est un petit peu compliqué, vous le savez, en art-thérapie, d'être attentif à plus de 10 personnes. Déjà, je trouve que 10, c'est beaucoup. Donc, que des groupes, je n'ai pas la possibilité de les rencontrer en individuel. J'ai juste accès à leur dossier médical lors de leur hospitalisation ici au sein de la clinique. Nous n'avons pas de staff, nous n'avons pas de temps dédié aux réunions, aux échanges. Donc voilà, c'est, je suis un petit peu autonome et j'essaye de faire au mieux. Mais dans l'évolution de l'état des patients, on a quand même accès, bien sûr, à leur dossier. C'est une équipe pluridisciplinaire, donc j'échange énormément avec les thérapeutes collègues, qu'ils soient sophrologues, infirmiers ou coach sportif, parce qu'il y a ça ici aussi. Les médecins psychiatres sont un petit peu inaccessibles, c'est pas grave, je mène mes recherches, je suis supervisée de mon côté et je me sens bien dans cette posture et dans mon travail. Vous allez le comprendre. Ben très vite là, puisque je vais vous parler de ce qui déclenche peut-être mes séances. Je ne prévois pas de scénario préalable. Je n'ai pas, bien sûr, j'ai un jukebox d'atelier en tête comme tout art thérapeute, mais je fais très peu appel à des préparations préalables parce que déjà je n'ai pas de temps dédié pour cela et parce que c'est comme ça que je fonctionne. Étant issue du monde des arts plastiques et des beaux-arts, et donc j'ai énormément pratiqué la matière, moi-même en tant que créatrice de grandes toiles, et puis ensuite, voilà, avec tout ce parcours artistique que j'ai. Donc je fais, en fait, finalement, mon déclencheur, c'est ma propre créativité. C'est-à-dire, je reçois le public, le groupe. Nous avons des tables disposées en cercle carré. C'est un concept, le cercle carré. Donc je les reçois et on se fait des échanges en début de séance, comment ça va, etc. Donc il y a déjà une sensibilité, du moins une énergie qui va effleurer ma sensibilité. Donc je perçois déjà un petit peu des besoins. Puis nous avons établi une routine, parce qu'évidemment en psychiatrie, les patients qui ont des troubles du comportement ont besoin d'un cadre et d'une routine, d'un rituel. Donc mon rituel à moi, c'est le carnet de Gribouille. On va mettre le cerveau droit en mode intuitif et créatif. Disons qu'on va lui redonner de la place dans enfin, dès le début de la séance par le Gribouille. On lâche. Et on essaye de ne penser à rien d'autre. Donc en fait, mon outil principal finalement pour mener mes ateliers, c'est ma propre créativité parce que la matière, je la connais. Donc je sais que je peux rebondir avec elle. J'ai confiance. C'est un petit peu là-dessus que je bâtis mon processus thérapeutique avec les patients. Donc, cette histoire de confiance, en fait, ça me permet finalement, cette confiance que j'ai en la matière, elle me permet d'agir, d'être dans l'action quasi immédiate. Je perçois un besoin et allez, c'est parti. Alors, soit on est dans une proposition auprès du patient, des patients, auprès du groupe, allons-y, on est dans la matière, on agit. Tout de suite, on se met à faire. Et alors, évidemment, je fais avec eux parce que je vais être dans le mouvement, dans l'action. À travers mon atelier, il y a différentes zones où je vais aller extraire des papiers. Alors, je peux vous montrer, par exemple, tiens, aujourd'hui, on va recycler du papier. Voilà. Donc, si on recycle du papier, ça veut dire... comment je me situe en tant que patient sur le thème de l'écologie, le thème de l'appropriation d'un objet qui a peut-être déjà servi? Comment je vais. Voilà, il y a plein de notions qui émergent finalement, dont je vais pouvoir me servir moi aussi en tant que thérapeute pour noter des choses à propos des patients, mes observations. Et puis l'agir, le faire, on quitte ce repli sur soi et cet état de malade pour entrer dans dans l'état de créateur. Voilà. C'est assez. Disons que la chose, le sujet, vous pouvez l'appeler le thème finalement de la séance chaque jour, va vraiment émerger des patients, de ce que moi je perçois, de ce qu'ils m'amènent. Donc, si moi j'ai confiance en ma matière, en mon contenu, ou en du moins en ce que je peux leur proposer, il se peut que mon groupe ait confiance aussi. Disons, c'est bien parti. En fait, c'est ça, la clé, c'est que le groupe se sente en confiance, c'est que les personnes qui arrivent, qui sont extrêmement vulnérables, soit à cause de traitements médicaux, soit à cause d'épreuves qu'ils ne cessent de surmonter au fil de leur vie et de leur maladie. Et la première, quand on est un patient en psychiatrie, c'est le regard des autres, c'est la méconnaissance, ou ne serait-ce que la maladie invisible. Donc tout ça fait que j'ai autour de moi, pas face à moi, vous voyez, autour de moi, pas avec moi, des gens qui sont vulnérables, qui n'ont absolument pas confiance. Donc j'ai confiance. Faites-moi confiance. On y va ensemble. C'est un petit peu comme ça que je vais travailler. Si j'ai confiance, j'ai confiance. Je commence à reprendre confiance en moi et puis je reprends confiance au groupe. Alors, on a le droit de. Ça, c'est un support commun. Vous savez, hein, vous connaissez sûrement cette feuille qu'on va faire tourner à mon top. Allez, on change, on passe à son voisin. Donc, chacun va y inscrire des choses. Et puis, quand ça revient à moi, il y a quand même 9 personnes qui sont passées sur ma feuille. Waouh, comment je me sens? Donc, à nouveau, je vais recueillir les réactions. Qu'est-ce qui se passe? Alors, évidemment, j'ai oublié de le dire, les patients m'ont autorisé à vous montrer, mais moi, je ne prends pas jamais en photo. Donc, c'est pour ça que je tenais à vous montrer directement ce qui est fait ici à l'atelier. Ce que j'entends, moi, dans les peurs, dans les craintes que les patients amènent, c'est quasi à chaque fois, mais j'ai peur d'être hors sujet, voire même à la fin de la séance, en fait, je suis hors sujet. À nouveau, ce signe de croyance limitante, bim, qui revient en pleine face, de manque de confiance en soi, en l'autre. Et quand je fais partie du groupe, c'est-à-dire quand je suis parmi eux, en train de, à table, avec eux, je prends place et je gribouille, je fais, j'explore moi aussi, je m'aperçois, ma non-crainte du hors-sujet, les encourage, les accompagne. Et voilà, ça contribue grandement, ma présence, le fait que je fasse avec eux, non seulement ils voient que ça me fait plaisir, ils voient que ma pratique, elle est autant dans l'exploration que eux, finalement. Je vais explorer, je vais titiller ma créativité. Sont-ils vraiment sujets de leur thérapie? Sont-ils vraiment sujets de leur santé? Moi, en tout cas, parmi les tâches qui me sont incombées dans cette clinique, c'est de leur redonner un petit peu les rênes de leur santé et leur montrer qu'il peut y avoir un rétablissement possible en psychiatrie. Je suis hors sujet parce que je crois que cette société veut systématiquement qu'il y ait des résultats, du bien-faire. Or, ben par exemple, ce gribouillis du début de séance, je leur montre qu'on s'en fout en fait, le bien, le pas bien, le beau, le pas beau. Ce n'est pas là le sujet. Et je leur dis souvent, voilà, parce qu'on discute finalement ensemble quand je suis à table avec eux, que l'importance du trajet, de ce que leur créativité va les amener à faire, et non pas le résultat final. Vous le savez, encore une fois, vous êtes sans doute art thérapeute vous-même, le résultat esthétique, bien que parfois ça fait du bien quand c'est beau, ça n'est pas le véritable objet, mais plus qui s'est passé pendant la séance. Et ça, je les encourage, moi. Donc, je ne les interromps pas pendant qu'ils sont en train de créer, Par contre, à la fin de la séance, on se parle, on échange et on se montre ce qu'on a fait. J'aimerais vous montrer quelque chose. Alors, là où je ne fais pas systématiquement, je ne vais pas créer à tout prix avec eux, d'accord? Néanmoins, par exemple, hier, j'étais en atelier et je n'ai pas créé avec eux. Pourquoi? Parce que, donc, par rapport à ce gribouillis qui est arrivé au tout début, je leur ai simplement demandé de faire un test. On ne va pas se parler du gribouillis, qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui. Par contre, vous allez juste me faire un collage spontanément sans réfléchir, trouver des images dans les magazines. Ne réfléchissez pas. Partez à la récolte de ce qui vous plaît et puis vous allez faire le montage ensuite. Alors, j'avais simplement envie de leur montrer que ce qu'ils font au début, quand ils acceptent de lâcher le geste sans réfléchir, peut avoir des, j'appelle l'inspiration, non? Sur cohérence dans la couleur, dans les formes. Ils sont assez bluffés. Ils ont vraiment été bluffés par un. Je vous en montre un deuxième rapidement. Un premier gribouillis. Voilà. Et la création qui a suivi. En oubliant le gribouillis, hein, simplement en allant. Voilà. C'est. La patiente, elle était bluffée complètement par ce qu'elle a fait parce que elle a vraiment trouvé une similitude entre eux. Alors, c'est marrant parce que cette patiente joue au golf et elle me dit, ah, mais oui, mais je m'entraîne à vide quand je veux atteindre ma cible. Ben, voilà, peut-être qu'on s'entraîne à vide en faisant un petit entraînement intuitif au départ. Bref, donc. Je fais également avec eux parce que j'ai pas envie qu'ils se sentent observés par quelqu'un de passif qui va pouvoir les juger à la fin. Voilà. Donc je tiens aussi à être parmi eux pour qu'ils ne se sentent pas observés. Une création d'une patiente qui a fait émerger quelque chose durant une séance. Un jour, elle nous dit je dois toujours tout combler, tout remplir, mes espaces, même chez moi, sur mes murs, c'est plein tout le temps. Donc, à chaque fois, ces créations sont pleines, pleines, superposées, pleines. Alors, je lui ai proposé, à elle et au groupe, parce que finalement, ça touchait aussi les échanges au groupe, je lui ai proposé de travailler sur cette notion de réserve, de vide, de plein. On a travaillé sur la réserve. Et voilà, donc on a créé des espaces où il n'y a pas, comme les aquarellistes qui créent des réserves pour ne pas peindre partout, pour garder le papier blanc. Et bon, bien sûr, ça l'a un petit peu stressée, mais je lui ai proposé un retour dans la matière avant de se quitter pour qu'elle ne parte pas stressée par par l'épreuve qu'elle venait de surmonter quand même. Et elle a malaxé de la matière, de l'argile, juste pour retrouver une consistance, la consistance dont elle avait besoin. Je ne vais pas faire à tout prix, je ne vais pas me systématiquement m'obliger à faire avec eux, mais par contre, quand je suis parmi eux, il y a quand même des choses qui émergent, des échanges qui sont plus précieux, hein, que tout. Ils s'aperçoivent très vite que je ne tiens pas le premier rôle parce qu'ils avancent avec moi, avec nous tous, mais ils se rendent compte qu'ils tiennent, eux, le premier rôle, finalement. Parce que tout ce qu'on fait en création, la façon dont on fait, la façon dont on agit dans le groupe, crée bien sûr notre relation thérapeutique, et c'est là que ça touche le sujet de ce colloque, mais ils se sentent tellement valorisés parce que tout ce qu'ils amènent, on peut extraire des choses, et ah tiens, comment en créativité on va pouvoir répondre à ce que vous faites émerger là? Voilà, donc je tenais à vous témoigner de tout ça. J'espère que vous avez pu percevoir certaines choses au travers de ce que je vous ai montré. C'est toujours un petit peu bref, mais voilà. Ben, merci en tout cas
Merci.
pour votre écoute et votre attention. J'espère que tout
Merci
s'est bien
beaucoup,
passé.
Christine.
Je vais me
problème peut-être.
permettre avant peut-être des questions un petit peu plus en profondeur. Il y a quand même eu beaucoup de questions qui demandent que tu précises, Christine, s'il te plaît, un petit peu plus le cadre, c'est-à-dire il y a beaucoup d'interrogations sur ce nombre de personnes important alors que tu es seule. As-tu parfois des stagiaires ou pas? La fréquence des ateliers, combien de tant tu vois les gens, groupe fermé, ouvert,
Alors,
voilà.
pour les
Quelques petites précisions, un peu de cadre comme ça, et puis après on passera aux questions plus profondes.
patients que je reçois en art thérapie sont donc, du coup, ils voient leur médecin psychiatre à l'entrée, à l'admission au centre de jour qui établit avec eux un programme. Ensuite, ils ont un planning et ils viennent en séance une fois par semaine sur un atelier de 2 heures par groupe de 10. Ce sont des groupes totalement hétérogènes. Ça veut dire que tout est mélangé. Il peut y avoir des personnes schizophrènes avec des personnes bipolaires ou en burn-out. Enfin, voilà. Donc, c'est très, très hétérogène. Il n'y a malheureusement pas la possibilité de faire des groupes par, ne serait-ce que par pathologie. J'ai tout de même réussi à faire un groupe de personnes qui ont un niveau cognitif très faible. Parce que voilà, ils se sentaient perdus et en échec avec les autres. Sinon, donc je les reçois une fois par semaine à raison de 2 heures. Ce qui va peut-être changer là parce que on a la pression du PDG qui veut qu'on reçoive plus de gens encore. Donc voilà, je suis seule art-thérapeute dans ce centre de jour. Il y a une art-thérapeute qui travaille dans la clinique où ils sont donc en hospitalisation complète, parce qu'ici c'est un accueil de jour, ils repartent. Hein. Voilà, au niveau du cadre, oui, c'est 2 heures maximum.
Est-ce que tu pourrais
Voilà,
nous
une fois par
préciser
semaine.
comment se fait l'orientation ou l'indication? Tu parles de planning d'activité, d'atelier un peu global. Qui dans l'équipe fait ça? Est-ce que toi, tu as un droit de regard? Tu disais que tu n'avais pas de temps pour de l'individuel, donc j'imagine que tu n'as pas de temps pour des entretiens non plus. Et
Non,
on
j'ai
se
aucun
question...
temps.
enfin, dans le chat aussi, questionne donc l'idée de groupe hétérogène, donc c'est en termes de profil. Toi, tu n'as pas la main sur créer ton propre groupe. Mais est-ce que c'est quand même fermé ou semi-ouvert? Qu'est-ce que tu peux nous dire
C'est
là-dessus?
ouvert. C'est ouvert, ça veut dire que je peux découvrir un nouveau patient qui intègre chaque semaine, à chaque groupe, chaque séance. Il se peut que je m'aperçoive que j'ai une personne que je ne connais pas et que le groupe ne connaît pas. Donc en fait, le groupe, on travaille vraiment sur une souplesse, sur quelque chose autour de l'adaptabilité, voilà, de l'ouverture aux autres, parce que on accueille des personnes nouvelles à chaque fois. Donc
Oui.
je propose des séances, c'est one shot quoi. On ne peut pas mener un projet sur plusieurs séances. Ça peut arriver, mais c'est très rare parce que et généralement les gens, moi j'aurais aimé qu'il y ait un nombre maximum de par patient, par exemple 12 ou 15 séances maximum. Malheureusement, les psychiatres ne veulent pas bon, ils sont un petit peu plus dans. Enfin, je trouve que ça crée un peu de chronicité, mais ça, c'est mon avis. Mais ça fait. Il y a des gens, je les ai depuis 2 ans, par exemple, et ils ne quittent pas le centre de jour. Ils sont là, on est leur béquille. Donc là, il y a une forme d'aliénation aussi qui est bof, bof. Mais qui je suis, moi, pour donner mon avis? Malheureusement, personne. Voilà.
Super.
Faut être OK avec ça. Moi, j'ai un tel plaisir de pratiquer que je réussis à faire abstraction de cet environnement qui parfois est un peu mais on y arrive.
Oui, parce que du coup, là, on a plein de questions par rapport à ce cadre où au final, le jour J, tu ouvres ton atelier, tu sais pas forcément qui vient. Le travail de continuité, enfin, tu sais pas forcément, tu ne connais pas forcément la personne qui va venir. Et donc, il y a une question de comment avoir une cohésion de groupe, peut-être comment avoir une évaluation dans la continuité du soin. Il y a cette idée de one shot, tu l'as dit, mais pour moi, je travaille aussi en psychiatrie. Et moi aussi, ça m'arrive, la personne, je vais la voir qu'une seule fois. On plante des graines. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et ensuite, Paola, on t'écoute.
Je me suis fabriqué un outil d'évaluation assez personnel, mais qui me permet de. Je fixe quand même au début de la séance que c'est un souci pour, bien sûr, leur santé perso. Je veux dire, voilà. Donc, ils ont des objectifs différents. Donc, on se fait toujours un petit rappel de, alors, comment ça va aujourd'hui? Comment vous avez envie d'avancer? Où est-ce que vous sentez que vous avez avancé? Et puis, donc, moi, tout ça, j'en prends note un petit peu dans ma tête ou un petit peu sur un carnet. Et puis, je me suis créé vraiment un outil, non seulement que j'utilise moi, et le patient également, il a une petite série de questions très, très court parce que l'idée c'est pas de revenir au mental après la séance, mais par exemple votre état en arrivant angoissé, votre état en partant détendu, apaisé. Voyez, c'est des petites questions comme ça qui vont me permettre moi de j'aime pas le mot évaluer, mais en tout cas d'observer l'évolution du patient. Donc il est acteur parce que il remplit une auto-évaluation. Et moi aussi, je me suis fait une grille. Je crée mon cadre, en fait, en fonction des outils que j'ai.
Merci, Paola.
À
Oui,
toi.
super. Merci beaucoup, Christine, pour ce partage. D'ailleurs, le partage d'une expérience où tu as réussi à trouver une place, à te faire une place, malgré aussi un cadre qui nous pique un peu, parce qu'il est complètement un petit peu à l'opposé du cadre idéal que nous avons de représentation des art-thérapies qui peuvent rentrer dans un processus de longue haleine avec des années. Là, tu es dans une prise en charge qui peut être de une séance et tu dois adapter et ajuster justement à les art-thérapies, mais avec cette réalité du terrain. Et ça me permet de faire le lien aussi de vous rappeler qu'en France, nous avons la sécurité sociale, mais il y a des pays qui ne l'ont pas du tout. Et il y a beaucoup d'art-thérapeutes qui doivent travailler en one shot. C'est une séance et c'est tout, parce qu'après, ils n'ont plus de continuité dans les soins, parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale derrière qui va venir prendre en charge ces séances. Donc, on ne les voit pas forcément. Donc, ça dépend vraiment des cadres. Donc, ce que je trouve très intéressant, Christine, dans ce que tu nous partages aussi, c'est ton être et cette présence qui accueille dans l'ici et maintenant pour ouvrir un espace qui permet de faire et rentrer au moins. Si ce n'est pas dans un processus de création ou un processus créatif ou art thérapeutique, parce qu'il n'y aura pas nombre de séances, tu rentres quand même dans un faire de création qui permet de reconnecter avec un plaisir aussi de ces personnes patientes malades et qui va venir équilibrer ou réguler quelque chose aussi à l'intérieur. Donc, ce n'est pas rien et ce n'est pas. Il n'y a pas à négliger cette notion aussi de recontacter avec le plaisir possible dans une pratique de thérapie. Bien sûr, là, c'est entendu peut-être d'une autre manière, parce que comme tu le dis, il y a des personnes que tu ne revois plus, mais que tu adaptes et tu accueilles. Et grâce à ton outil d'artiste et d'art-thérapeute, tu peux ajuster et adapter les propositions. C'est pour ça qu'on entend aussi que tu proposes des choses, parce qu'il n'y a pas forcément de temps pour rentrer dans un processus où la personne va d'elle-même découvrir tout le temps des choses, mais toi, tu vas border un peu plus, entre guillemets, pour qu'il trouve et expérimente cette liberté.
Et l'idée,
Donc,
c'est
je
aussi
trouve très intéressant ce partage qui vient nous chambouler.
le fait que finalement, je tiens à ce que la personne, chaque personne présente dans l'atelier, sente que, en fait, la chose est en lui et il peut, grâce à l'art-thérapie, faire émerger quelque chose pour s'en saisir et peut-être le travailler seul en psychothérapie individuelle, par exemple. C'est aussi ça l'idée. Juste, je me permets de préciser, c'était peut-être pas clair. Les gens, c'est des groupes ouverts. Il se peut que j'accueille une personne juste une fois, mais c'est très rare quand même. Les gens qui intègrent l'art-thérapie restent, viennent chaque semaine et restent longtemps. Mais comme chaque semaine, on peut accueillir une personne nouvelle, il y a toujours cette histoire de Ben, eux-mêmes doivent être aussi dans l'accueil. Il n'y a pas que moi qui suis dans l'accueil inconditionnel, mais pas les autres aussi. Voilà. Et je trouvais que ça, c'était aussi très intéressant
Ce qui est
chez
intéressant
les patients.
aussi, on voit avec toi, tu as réussi à faire un groupe qui est en lien avec certaines capacités cognitives, mais tu as quand même aussi des groupes hétérogènes. Et on voit aussi la richesse des art-thérapies qui ne s'adressent pas à la pathologie ou aux symptômes. Elles s'adressent aux personnes qui expriment différentes formes de leur pathologie et que donc l'art peut tout à fait s'adapter, s'ajuster. Et de ce fait, nous sommes beaucoup d'entre nous à travailler en psychiatrie avec des groupes hétérogène aussi, parce qu'on ne s'adresse pas à la pathologie. Par contre, dans la mesure du possible, on essaye de calibrer certaines choses au niveau des dynamiques de groupe pour que ça puisse marcher. Mais merci beaucoup pour ce partage, Christine. Je ne sais pas, Justine, s'il y a d'autres questions là avant Alors, ou on
du
doit
coup,
passer.
Anne, qui est l'intervenante suivante, est OK pour avoir un petit peu de retard. Donc, ça nous permet peut-être de reprendre des questions. Ce qui remonte beaucoup, c'est cette idée de, bah, en fait, comment on fait? Est-ce que c'est pas frustrant? Et moi, c'est ça qui m'a un petit peu touchée tout à l'heure, parce que tu disais, j'ai confiance. Moi, j'ai pas de crainte. Et donc, ce cadre intériorisé te permet de faire avec la réalité institutionnelle. Ou de toute façon, faut que tout aille vite, que ce soit dans le public ou dans le privé. Il y a des gens qu'on ne voit qu'une fois, mais ça n'empêche pas que quelque chose se passe. Voilà, peut-être tu pourrais nous dire quelque chose sur ta place dans l'équipe. Comment? Parce que tu disais aussi qu'il n'y avait pas de staff, donc pas de transmission, pas de réunion clinique. Tu es très isolée au final.
Les transmissions, je fais des transmissions sur mon espace numérique qui sont lues par les thérapeutes, malheureusement pas suffisamment par les médecins. Donc les transmissions, elles sont indirectement faites via l'espace numérique. Ça veut dire que si je veux avoir une meilleure connaissance d'un dossier médical, je peux aller évidemment dans le logiciel qu'il faut. Bon. Par contre, elles sont pas, on n'a pas de staff clinique, on n'a pas encore, on essaye d'en mettre en place parce qu'on ne nous met pas de temps pour ça. Je veux dire, je travaille voilà, de 9h à 12h30, mais je suis en patientèle de 9h30 à midi. Donc, à quel moment on peut se regrouper pour échanger? Ça, ben non, vous comprenez, les réunions, on va pas quand même pas vous payer pour les réunions. Mais je suis madame positive de l'équipe, c'est-à-dire. Ma créativité, disons, me permet, cette compétence que j'ai me permet de ne pas trouver de frustration parce que ça me challenge en fait à chaque fois et ça remet, ça me donne l'occasion de rebondir, de créer, alors que ce soit pour l'équipe, mais aussi pour les patients, pour moi. Donc, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, oui, je m'appuie sur ma créativité et je sais que j'ai cette compétence-là, donc je m'en sers, mais tout le temps, finalement.
Merci de plus que tu as nommé très rapidement la supervision en plus dans
Oui.
ton
Ah oui,
processus.
alors, je n'avais pas la supervision. Par contre, moi, comme j'accueille vraiment beaucoup de gens par semaine, jusqu'à 100 personnes, vous imaginez ce
Oui.
qui me traverse. Donc, je suis obligée de travailler en supervision autour du détachement. Ce n'est pas moi, c'est eux. Tout de même, je suis un être humain sensible, très sensible. Donc, je travaille surtout autour du détachement de ce n'est pas moi. Vous voyez, c'est un petit peu le travail que je fais en supervision.
Oui, merci, parce que ça ouvre justement à comment bah, c'est des décisions aussi de politique de santé. Comment elles vont venir aussi influer ou modifier ou créer ce besoin d'adaptabilité dans notre cadre. Je pense que beaucoup d'entre nous, nous passons par ça. Et comment justement le politique rentre dans cette micro-politique art-thérapeutique. Merci Christine. Parce que ton témoignage nous fait un peu, ah, comment ça? Mais pourquoi? Mais comment? Et en même temps, c'est une réalité à laquelle tu nous fais part de comment tu as su, d'une manière très créative, trouver une place pour être pleinement et pour accompagner dans ce faire créatif du soin. Merci.
Si on veut devenir art-thérapeute, c'est la compétence première, la créativité, la matière, savoir sur le bout des doigts ce que ça va pouvoir. Enfin, je veux dire, si l'encre, on ne sait pas si une tache d'encre va faire dans l'eau. Ou si, enfin, voyez, c'est, il faut avoir expérimenté beaucoup, beaucoup, beaucoup et mis à l'épreuve notre créativité, je pense, pour pouvoir être un art-thérapeute. Enfin, moi, c'est ce que je défends, ça, quand j'ai des stagiaires, je dis, es-tu créatif? Voilà.
Merci. Le public réfléchit beaucoup et c'est bien de faire ce petit clin d'œil à la réalité institutionnelle et politique. Déjà, donc, on a un métier qui n'est pas reconnu, pas protégé et qui parfois se fait absorber par d'autres professionnels ou d'autres disciplines. Au final, on nous dit, bah, un tel ou un tel fait un groupe d'art plastique. Qu'est-ce que l'art thérapeute apporte de plus? C'est une histoire de budget. Et c'est là un gros enjeu qu'on a tous, hein, défendre ce métier, expliquer ce qu'on fait et s'adapter. Et ça, c'est peut-être un des meilleurs traits que l'on peut avoir en tant qu'art-thérapeute, c'est qu'on s'adapte. Et je sais plus ce matin qui parlait de la personnalité, qu'il y a des compétences et des outils qu'on peut apprendre, mais il y a aussi quelque chose qui vient de notre personnalité, notre fonctionnement. En tout cas, merci, ça a dynamisé là en cette reprise d'après-midi. On est en plein dans le sujet. C'est le faire et l'être du thérapeute aussi, vraiment.